Voilà. Eh bien, ça fait drôle de parler assis comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ou re-bienvenue au Festival des Libertés. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus pour un moment de réflexion, de discussion et de critique également. Cette année, le Festival des Libertés a décidé de travailler et d'axer toutes ses activités autour d'un thème qui est les mythes et les utopies. Durant les jours qui ont précédé, nous avons donc exploré toute une série de sujets tels que le travail, ou encore hier, nous avons eu des rencontres autour du rapport à certaines addictions ou encore à toutes certaines choses qui vont suivre et que je vous laisserai découvrir. Demain, nous parlerons de la démocratie. Je ne vous parle pas des nombreux films qui ont abordé ça en explorant les pays du monde entier, etc. Je vous invite aujourd'hui, vous êtes venus aujourd'hui pour discuter avec nous du progrès, une notion très présente dans notre univers mental, dans notre monde. Et pour en discuter avec nous ce soir, nous recevons deux philosophes. Donc nous avons à ma gauche Pascal Chabot, qui est enseignant à l'IEX, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, et je vous invite à les consulter pour plus d'informations sur sa pensée et son œuvre, notamment « Après le progrès », qui est un titre plutôt pertinent par rapport à notre discussion de ce soir. Et à votre gauche, vous avez Michel Pouesch, qui est lui aussi philosophe, lui aussi enseignant à Paris, à la Sorbonne, lui aussi auteur de nombreux ouvrages, et pas que sur papier d'ailleurs. Vous trouverez sur internet un tas de références. Je citerai à titre d'exemple, lui aussi un peu pertinent, le gros ouvrage de Michel Pouesch, le Homo sapiens technologicus. Voilà. Nous allons commencer cette discussion par une petite mise au point de notre sujet, le progrès, vaste programme. Alors je pourrais poser comme ça une petite question toute simple. Tiens, c'est quoi le progrès? Mais on va un peu préciser. Et essayer de replacer cette notion dans l'espace et dans le temps. Voilà. Rien que ça.
C'est moi qui dois faire bien. Bonsoir à mesdames et messieurs. Donc je dois situer le progrès dans l'espace et dans le temps afin de mettre le débat en perspective, c'est ça? Seulement ça. Ok. Ben finalement, on sait tous ce que c'est le progrès. Puis il y a plein de dictons, vous pouvez commencer à y réfléchir. On dit on n'arrête pas le progrès, par exemple. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire progrès quand on dit on n'arrête pas le progrès? Et on voit tout de suite, c'est pour ça qu'il y a besoin de philosophes, hein, que ça veut dire des choses qui sont contradictoires. Ça veut dire des choses qui, a priori, seraient très positives. Progrès, pour la majorité des gens, c'est encore chargé de l'idée de mieux. Mais quand on dit oui, ben il y a quoi dans le progrès, qu'on regarde autour de soi, ben on va se plaindre. Les gens vont dire oui, le progrès, il y a des ordinateurs partout, les jeunes ils sont tout le temps sur Facebook, on a des téléphones tellement bien qu'on n'en a pas besoin, et puis surtout demain, les risques que présentent les formes d'énergie auxquelles tous les pays ne sont pas décidés à renoncer, comme le nucléaire. Bon. Et donc finalement on se dit, ce qui a changé avec le progrès, là c'est pour situer dans l'espace et dans le temps, ce qui a changé avec le progrès, c'est que depuis assez longtemps, disons depuis les Lumières, depuis la fabrication de notre modernité, je crois qu'on peut dire, c'était une valeur uniquement positive. Il n'y avait pas de question qui se posait sur le progrès. Le progrès, ce n'était pas une question, c'était la solution. Vous avez des maladies, vous avez des problèmes, il y a des pauvres, le progrès s'en occupe. Et au bout d'un certain temps, il résoudra ce problème. Aujourd'hui, le progrès, c'est devenu une question. Donc, il s'est passé quelque chose entre les deux. Et comme Pascal Chabot a écrit sur « Après le progrès », c'est peut-être lui qui peut nous dire comment on passe d'un progrès à « Après le progrès » ou peut-être d'un progrès où on ne se pose pas de questions à des questions sur le progrès, non ?
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mais le débat est lancé, on est au... On est directement au centre de notre question sur le progrès, sur la défaite du progrès. De manière très générale, je dirais que le progrès est une idée importante et une idée dont il me semble qu'il ne faut pas se défaire. Cependant, c'est une idée qui a eu un destin absolument tragique et c'est une idée qu'il faut libérer dans un festival des libertés, je pense qu'on peut le dire, qu'il faut libérer d'une triple interprétation erronée. D'abord, le progrès a été souvent pensé comme messianique. Il ne faut pas oublier que, historiquement, cette notion de progrès est une notion qui vient d'un contexte théologique, qui vient chez Joachim de Flore, chez des penseurs du Moyen-Âge, de l'idée d'un avènement un jour d'un royaume de Dieu sur terre. Et l'idée vient vraiment là, de là. Elle vient du désir de réalisation d'un monde idéal sur terre. Et petit à petit, avec la modernité, elle se sécularise, mais elle garde tout de même sa charge messianique. Ça veut dire le progrès comme recherche de lendemain qui chante. C'est la première libération qu'il faut opérer, à mon sens, c'est ne plus penser le progrès comme une recherche de lendemain qui chante. Deuxièmement, c'est une notion qui a aussi subi un rapt, qui a aussi subi une véritable capture, c'est la capture par les sciences et les techniques. Nous ne pensons le progrès qu'à travers les sciences et les techniques. Quand vous lisez des ouvrages du 19e siècle ou du 18e siècle, de l'âge des Lumières, eh bien, il y a des penseurs qui mettent en avant d'abord un progrès humain. Et le progrès scientifique, le progrès technique est un des vecteurs de ce progrès humain, mais enfin, il y en a bien d'autres. La politique, la recherche de la justice, et même chez des gens comme Pierre Larousse, par exemple, vous lisez le vieux dictionnaire de Pierre Larousse de 1860, son grande œuvre en 15 volumes, vous lisez l'article Progrès, il va vous se demander est-ce qu'il y a un progrès en poésie, est-ce qu'il y a un progrès en littérature, etc. Le progrès concerne tout cela. Et alors, le troisième rapt, à mon sens, qui a été opéré sur cette idée de progrès, c'est le côté linéaire. On a vu, on a plaqué sur le progrès, qui étymologiquement signifie simplement en latin progradere, marcher en avant. Donc on est vraiment dans la bipédie, on est dans quelque chose qui est très, très proche de l'homo sapiens, pour reprendre le début du livre de Michel. On est dans l'homo sapiens, dans la marche en avant, mais cette marche en avant qui a été toujours vue comme linéaire, comme devant aller vers l'avant, toujours vers l'avant, toujours plus loin, ne pensant pas du tout donc d'autres types de progrès. Donc à mon sens, cette idée de progrès, idée magnifique, a connu un destin tragique à cause de ces trois captures, et le tout est de se demander qu'est-ce qu'il en reste si on la libère de ces interprétations faussées, erronées ou difficiles.
Pour reformuler ça un petit peu, il y a deux questions qui se soulèvent comme ça directement. C'est qu'avons-nous fait du progrès et qu'est-ce que le progrès a fait de nous ? Alors,
pour oui. Michel Lepouège. Voilà, on peut rebondir à partir de ça en se demandant pourquoi on se poserait des questions sur le progrès. Alors, on a des premières clés dans ce que vient de dire Pascal. On lui a donné des sens qui amènent à des questions. Mais encore plus simple, effectivement, se demander qu'est-ce que le progrès a fait de nous. Juste regarder la question, souvent les philosophes ont fait ça. Déjà la question, comment ça se fait que c'est le progrès qui fasse quelque chose de nous ? Normalement, c'est nous qui faisons le progrès. Et si vous avez réfléchi depuis tout à l'heure à la question qu'est-ce que ça veut dire quand on dit on n'arrête pas le progrès, ça veut dire aussi qu'il nous roule dessus, qu'il arrive, qu'on ne peut rien contre lui, qu'on n'a pas le choix. Et on le dit souvent de manière ironique. Vous savez, je sais pas, vous allez manger chez quelqu'un qui vous a dit qu'il vous faisait, je sais pas, quel plat traditionnel, une choucroute ou quelque chose comme ça, et vous découvrez que c'est une choucroute surgelé, qu'il a réchauffé au micro-ondes, et vous dites, ah, on n'arrête pas le progrès, c'est bien. Mais en fait, vous pensez, c'est catastrophique. Il faudrait arrêter ça. Il faudrait arrêter des tas de façons de cuisiner, de perdre du temps, peut-être de se déplacer aussi. Donc le problème peut-être que nous pose le progrès, c'est qu'il fait des choses de nous. Il fait de nous des choses que nous n'aurions peut-être pas choisies si nous avions eu le choix. Mais comme on n'arrête pas le progrès, ben, il s'impose à nous. Et nous, les humains, surtout depuis l'époque des Lumières, nous avons tendance à pas trop aimer qu'on nous impose des choses, qu'on nous manipule, qu'on nous mette dans des cases, qu'on nous dise ce que tu faisais comme ça, maintenant c'est fini, tu vas faire autrement. Et c'est le progrès et t'as pas le choix. Et on te fait des piqûres et tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et cette idée de contrainte par le progrès, l'idée que nous sommes transformés par quelque chose que nous ne choisissons pas, sur quoi nous ne votons pas, nous ne sommes pas consultés, et souvent nous ne sommes pas capables d'évaluer non plus, c'est quelque chose qui amène à se poser des questions là où on croyait qu'il n'y avait pas de questions à se poser. Dans l'idée qu'on avançait donc forcément vers le mieux et qu'on était a priori d'accord. Là, on est, nous, en train d'être des générations, je nous mets tous dans la même génération, hein, la génération des gens vivants, on va dire, on est la génération qui se pose ce type de questions sur continuer à avancer, est-ce qu'on est sûr que c'est bien ? Des choses comme la décroissance, dont vous avez peut-être entendu parler, ça paraît aberrant. Ça paraissait aberrant, il n'y a encore pas longtemps. L'idée même que on a peut-être assez de progrès, d'évolution, de sophistication, et qu'on ferait mieux de s'occuper de ce qu'il a fait de nous, comme on le disait dans la question, on ferait mieux de s'occuper de nous, l'espèce humaine, et de ce que le progrès a fait de nous, et donc voir ce qu'on pourrait faire, je passe à la deuxième partie de la question, mais je serai plus court, ce qu'on pourrait faire du progrès, ça me paraît très important. Enfin, ma réflexion depuis longtemps, elle porte sur juste ce point-là, la réappropriation. La réappropriation. Des progrès, j'en prends un que j'aime beaucoup, les micro-ordinateurs et l'Internet. Ils nous transforment, mais c'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui le faisons, surtout l'Internet. Ce que nous mettons en ligne, ce que nous consultons ou pas, c'est nous qui le faisons. Donc on est dans un moment où il y a une sorte d'équilibre, et j'aimerais être optimiste, enfin je suis optimiste, de potentiel, de choses qu'on peut se réapproprier. Il faut trouver, alors de mon point de vue, pas discuter, savoir si le progrès c'est bien, c'est mal, où va l'humanité, bon, c'est bien, mais trop spéculatif pour moi, il faut trouver comment on peut se réapproprier le progrès, qui ou bien marchait tout seul, ou bien était mené par les forces obscures du capitalisme, si ça abuse des gens de dire ça, c'est pas un problème, peu importe. L'idée c'est, est-ce qu'on peut se réapproprier ce qu'on appelle le progrès, ce qu'on appelle donc technique, technoscience, ou est-ce que c'est lui qui nous possède, c'est lui qui nous cadre?
C'est la toute belle question, en effet. C'est Paul Valéry qui disait à un moment... à la croyance envers le progrès, on a ajouté la méfiance envers le progrès, ce qui fait deux lieux communs. C'est vrai que le progrès est constitutivement humain. Maintenant, il faut interroger ses modalités, il faut interroger sa manière de pouvoir être approprié. En réalité, je trouve que un des grands cadeaux que la philosophie peut nous offrir, c'est de nous donner des mots pour refuser les slogans, pour aller un peu plus profondément dans une notion et pour la disséquer. C'est vrai, quand on parle de progrès, il y a tout et son contraire, et on a même chez les anti-progressistes les plus courroucés, on a des inventions de progrès spectaculaires. Par exemple, chez Rousseau, qui est vraiment dans une détestation du monde de la science, du monde de l'art, du monde des faux-semblants, du monde de l'éloquence, etc. Donc vraiment dans une diatribe très, très viscérale et haineuse contre le progrès. Mais on a aussi celui qui invente véritablement l'idée d'un progrès démocratique, l'idée d'un individualisme et l'idée de liberté. au XVIIIe siècle. Donc les choses sont complexes. Le progrès ne peut pas être un immense slogan, ni positif, ni négatif. Avec ces outils que sont les mots, et qui sont absolument les seuls outils des philosophes, des écrivains, pareil, des poètes, pareil, sauf que chez les poètes, ce ne sont pas des outils, eh bien, il me semble qu'on peut distinguer deux types de progrès, deux types de progrès qui sont très différents. Moi, je les appelle un progrès utile, un progrès qui a un impact sur la matière ou sur nos modes de vie, d'une part, et qui, lui, obéit à une logique de capitalisation, parce que la manière dont notre progrès est vécu, eh bien, c'est une manière profondément capitaliste au sens premier du terme, c'est-à-dire que chaque génération hérite des produits du progrès des générations précédentes qui sont capitalisés et qui constituent une base pour les progrès techniques, technologiques ultérieurs. Un enfant qui naît aujourd'hui va hériter du microprocesseur dans lequel sont déposés des dizaines, des centaines, peut-être des centaines d'années de progrès, et il en hérite comme véritablement un capital qu'il pourra réinjecter dans d'autres histoires. D'où l'immense force de ce progrès technique qu'on compare à un rouleau compresseur. Parfois, l'image n'est pas tout à fait fausse, parce que on a vraiment là une logique qui se nourrit chaque fois de tout ce qui a été fait précédemment et qui peut aller toujours plus loin. Ça, c'est le progrès utile. Il faut le qualifier. Il n'est pas entièrement négatif, il n'est pas entièrement positif, etc. Je pense qu'on essaie de camper un débat dans lequel on prend des chemins de traverse autres, justement, pour faire du problème un vrai problème, et pas simplement pour donner une réponse illusoire, utopique ou démagogique. Et à côté de ce progrès subtil, il me semble qu'on doit penser à un autre type de progrès, que moi j'appellerais le progrès subtil. À côté du progrès utile, un progrès subtil, qui serait un progrès assez proprement humain, qui serait un progrès du style de celui que chaque humain fait en apprenant le langage, par exemple. On progresse quand on apprend le langage. Un enfant progresse, mais à chaque génération, tout doit être refait. C'est profondément non capitalistique comme progression, mais pourtant, c'est le progrès humain le plus important. On ne peut pas hériter du langage tout fait, il faut le réapprendre. Un parfumeur ne peut pas se faire un nez de parfumeur directement, il faut une progression, il y a peut-être un nez au début, mais il faut un apprentissage. Tout ce domaine lié davantage à l'éducation, lié aussi à l'art, lié à la philosophie, est un domaine dans lequel il y a des progrès. Ces progrès-là sont, à mon sens, centraux. Ces progrès-là sont, à mon sens, plus importants que les progrès utiles, mais dans notre réflexion sur le progrès, ils sont en général totalement mis à l'écart. Trouver des modes de cohabitation entre ces deux types de progrès qui peuvent être férocement antagonistes, mais qui pourraient aussi trouver des types d'équilibre, il me semble que c'est le défi contemporain. C'est pourquoi il ne faut pas simplement dire nous refusons totalement le progrès tout en continuant à prendre des trams, des voitures, des avions, tout ce qu'on veut, ou en utilisant des ordinateurs. Mais le mot de Michel est le tout bon mot. S'approprier, comment s'approprier, à mon sens, en séparant les choses, en séparant pour penser des logiques différentes, subtiles et utiles.
Oui, oui. Je ne sais pas si le débat doit être très contradictoire, mais jusqu'à présent, on est vraiment très, très d'accord. Ce que vient de dire Pascal, ça fait jouer un sens où progrès a du sens. Quand on, dans l'éducation, progresser, ça veut dire quelque chose. Et pourquoi ça veut dire quelque chose? Pourquoi ça a du sens? Parce qu'on sait ce que c'est qu'un humain. On sait ce que c'est que la capacité de parler, d'interfacer avec d'autres humains. quand on fabrique un humain, on peut parler de progrès, et les enfants, on les voit progresser. Et dans les autres domaines, ceux que j'évoquais, plus technologiques, plus utiles tout à l'heure, on peut se poser la question, parce que peut-être on ne sait pas où on veut aller. On n'est pas sûr que ce soit mieux, parce qu'on ne sait pas où on veut aller. Donc là, il y a un grand carrefour dans les gens qui réfléchissent à ces questions-là. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait trouver un sens pour savoir où on veut aller, avoir des objectifs de civilisation, avoir des valeurs qui nous sont communes, ou bien à la totalité de la planète, ou bien à un sous-groupe un petit peu plus embêtant. Bon. Et une fois qu'on aurait des valeurs communes, on pourrait dire oui, on prend le risque du nucléaire, non, on ne le prend pas, oui, on veut que les Chinois aient des centrales au charbon en attendant qu'ils aient mieux, ou non, ils n'ont pas le droit d'en avoir, oui, on veut des OGM, ou non, on ne veut pas des OGM, parce qu'on saurait qu'est-ce qu'on veut globalement. On aurait un système de valeurs sur lequel on est d'accord. Ça serait bien. Le problème, c'est que, de mon point de vue, dans l'histoire de l'humanité, quand on a eu des systèmes de valeurs sur lesquels on était d'accord, ça n'a pas très bien marché. Ça a donné naissance à des idéologies. Quand on est très sûr de ses valeurs, quand on est très sûr qu'on a raison, ça tourne assez souvent mal. Et si c'est ce genre de sens de la première bifurcation qu'on essaie de retrouver, ben peut-être qu'on est à la recherche d'une idéologie et qu'on pourrait faire mieux. Il y a aussi une deuxième possibilité. C'est pas de dire trouvons l'idéologie qui nous permettra de savoir ce qu'il faut faire avec ces ayatollahs, ces livres sacrés, ça redonnera du sens. Il y a une autre façon de faire qui consiste à dire essayons de faire sans ça. Essayons de faire sans ça parce que là où la progression a du sens pour nous dans l'éducation de l'être humain, mais enfin l'être humain, bon, j'ai eu des enfants, certains d'entre vous en ont eu, j'espère. Éduquer un être humain, c'est bien quand c'est un enfant, mais il y a un être humain qu'on éduque beaucoup plus que ses enfants ou ses élèves, c'est soi-même. Il y a un être humain qu'on éduque et qu'on essaie de faire progresser en permanence, ou alors il y a problème, c'est soi-même. C'est la base de la conscience et de l'éthique. Si on s'occupe de ça, de là où progrès a vraiment un sens, dans la progression de soi, l'éthique, ou au moins la conscience de soi, on l'appelle parfois le projet de soi ou comme vous voulez. Bon, ce qu'on a envie d'être et de faire, mais surtout de faire de soi-même. Et qu'on transmet éventuellement à ses enfants, à ses élèves. Bon, d'accord. Là, il n'y a pas besoin d'adhésion idéologique. Il n'y a pas de risque de prise de pouvoir, de puissance, de vouloir accélérer le progrès. Mais là, sur cette voie-là, la voie où chacun se pose des questions pour lui, non pas à la recherche d'un gourou ou d'une idéologie, mais parce que dans ce qu'il a envie d'être, ce qu'on sent quand on se pose des questions éthiques, hein, ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai moins envie d'être, et que parfois je ne peux pas m'empêcher d'être, mais je vais essayer de progresser, là on comprend bien ce que ça veut dire progresser, ce genre-là de progrès, on peut miser dessus pour savoir par exemple si, alors là je ne me demanderai plus si il faut du nucléaire ou il faut des avions supersoniques, je me demanderai si moi j'ai envie de consommer beaucoup d'électricité, parce que c'est nous, moi aussi, hein, qui consommons beaucoup d'électricité, amenons à des choix énergétiques. C'est nous qui, en partant en vacances au Maroc, parce qu'il y a un billet à 25 ou 35 euros, c'est nous qui faisons qu'il y a de plus en plus d'avions, de plus en plus d'aéroports, de kérosène, etc. Donc, si dans le comportement de chacun, ce que j'appelle les micro-actions, il y a des choses qu'on assume, qu'on soutient ou pas, qu'on considère comme des progrès pour soi, on ne s'occupe pas du progrès de l'humanité. On capte, j'essaie de répondre et de me mettre dans les pas de la réflexion de Pascal, on capte cette signification de progrès riche et humaine pour en faire quelque chose qui n'est pas découplé du vrai progrès des technologies. Parce que si la plupart d'entre nous, ou un nombre suffisant, décide qu'il n'est plus d'accord pour manger de la nourriture industrielle, décide qu'il n'est plus d'accord pour prendre l'avion pour faire n'importe quoi, qu'il va faire attention à ce qu'il veut comme électricité, qu'il va payer plus cher de la nourriture bio ou qu'il va payer plus cher de l'électricité non nucléaire, ben, le reste de la marche de ce qui semble nous être imposé va changer. Si nous nous réapproprions, on est toujours sur la même notion, si nous nous réapproprions en fonction de ce que nous, individuellement, nous acceptons comme valeurs et donc comme amélioration et comme progrès, nous nous réapproprions nos actions. Il me semble que dans le monde contemporain, ça n'a pas toujours été le cas, mais dans le monde contemporain, nous avons une capacité à nous réapproprier le progrès dans son ensemble, le progrès extérieur, et faire que les choses utiles, les commodités, comme on dit un peu en anglais, qui nous sont proposées, ce que le marketing essaie de nous pousser en permanence, ça pourrait changer. Je pense que nous pouvons le changer, non pas, je conclue, par une sorte de découverte idéologique où tout le monde serait convaincu, mais plutôt par une reprise en main de chacun de sa propre existence et des micro-séparations du mouvement général. Si nous nous déconnectons de certains endroits en nombre suffisamment nombreux et que nous nous connectons à d'autres endroits en nombre suffisamment nombreux, le progrès dans le sens où il a de la valeur, le progrès éthique, intérieur, humain, pourrait, subtil, j'aime beaucoup ce terme, pourrait gagner la civilisation matérielle, l'extérieur, et sans violence, le déposséder. Déposséder les grandes structures de ce que, certes, elles nous imposent, mais en fait, à mon avis, avec largement notre consentement.
Merci. Moi, je vous propose que nous aérions ce débat par des petites sessions de questions du public, donc de vous, pour peu qu'il y en ait. Et donc, du coup, Isabelle, qui est là-devant, a un micro. Et si quelqu'un a envie de faire une intervention, de poser une question, etc., nous l'écouterons et nous y répondrons, ou réagirons tant bien que mal. Si ce n'est pas le cas, on ne s'en fait pas et on continuera comme ça encore un petit peu. C'est prévu aussi, mais... Voilà.
On a une demande. C'est une demande de micro.
En haut, Isabelle.
Je m'appelle Valérie Locadi. Bon, je voudrais un peu poser une petite question à ce genre. Est-ce le progrès égal le développement ou le défaut de paix? Si c'est non, quels sont alors les indices du progrès? Et peut-on encore parler de paix sans progrès pour le moment? Merci.
Donc effectivement, le progrès, le lien du progrès à la question du développement. Le progrès est une notion très occidentale. Le progrès est une notion très occidentale et elle est une notion anglaise et française qui naît telle que nous la connaissons actuellement avec le capitalisme dans les 15e et 16e siècles. Et le but, à ce moment-là, de l'action humaine avec le progrès, n'était pas spécialement de développer, avec tout ce que ce terme peut conserver de libératoire, mais était simplement de reproduire l'Occident. C'est assez symptomatique de lire le Robinson Crusoe de Daniel Defoe et de voir que quand Robinson échoue sur l'île de la Speranza, il a presque rien, sauf le coffret de charpentier, et dans le coffret de charpentier, il a des clous, il a des marteaux, il a des tenailles, c'est-à-dire qu'il a du métal qui suppose l'humanité, parce qu'on peut récapituler et faire certaines technologies seules, on peut faire des outils en bois seuls, mais du métal seul sur une île, on ne peut pas le faire. Donc chaque fois, le romancier, qui est tout à fait génial pour ça, donne le métal à Robinson Crusoe, qui alors, seul sur une île, va s'évertuer à reproduire entièrement le système britannique qu'il a quitté. Il va construire comme on construisait en Grande-Bretagne. Il va cultiver le blé comme on le cultivait. Il va domestiquer les animaux, etc. Donc, ce progrès-là, le progrès moderne, est profondément un progrès qui vise, je dirais, le clonage de l'Occident. Qui vise le clonage de l'Occident et... Crusoe, pour continuer dans les métaphores plus biologiques, serait une sorte de cellule souche qui, trouvant un milieu vierge, cette île étant ce qu'il y a de plus vierge comme île, reproduit entièrement ce qu'il a quitté. Il y a d'autres manières, et pour filer cette métaphore des Robinson que je trouve très intéressante pour penser le progrès, il y a d'autres manières de le faire. Et Tournier, plus tard, dans Vendredi ou les lames du Pacifique, a repensé tout à fait la même situation que Defoe, ça se passe juste un siècle plus tard, et c'est le même naufragé qui aborde dans une île semblable, c'est une autre langue, et qui, au lieu de domestiquer l'île, s'y exerce, c'est-à-dire essaye de projeter sur l'île déserte une dose massive de rationalité occidentale, et il le fait pendant un mois, deux mois, trois mois, jusqu'au moment où il y a basculement, et il se trouve dans un autre type de relation avec cette île qui peu à peu prend le dessous. Qui peut après, pardon, prend vraiment le dessus. Et il cherche un autre type de développement qui n'est plus de l'ordre du progrès, alors, mais qui est de l'ordre d'un devenir, devenir solaire, devenir relationnel, étroit avec cette île. Et au Robinson britannique, qui était complètement dans une mentalité d'épargne, d'économie, de rationalité britannique, et qui, après 28 ans, avait encore du rhum à disposition parce qu'il l'économisait, après 28 ans. C'est vous dire la psycho... Enfin, c'est vous dire que sa solitude n'était pas si terrible, disons. Le Robinson de Fou fait tout à fait autre chose. Je parle ici par métaphore, en convoquant la figure emblématique pour le progrès de Robinson, mais pour parler plus clairement, je veux dire qu'il est clair que l'idéologie du progrès a été le bras armé d'une Europe colonisatrice. Penser un progrès qui est également un progrès subtil, c'est essayer de penser à un autre rapport entre progrès et développement.
Voilà, effectivement, votre question était très pertinente, parce qu'avec le fil, en tirant, comme Pascal vient de le faire, sur le fil développement, on voit les problèmes qu'il y a dans la notion de progrès, et on peut commencer à construire des solutions aussi. Effectivement, la notion de développement, c'est un mythe. Là, on est du côté mythe et pas du côté utopie. Ça a été inventé, le développement, comme notion. Il y a un très bon livre dessus, pour ceux d'entre vous qui aiment les livres, excusez-moi, je reste un prof, je ne peux pas empêcher de conseiller des livres. Il s'appelle Rist, R-I-S-T. C'est un Suisse spécialiste du développement. Et son livre s'appelle Un mythe occidental. Occidental, Pascal l'a très bien rappelé, mais vraiment complètement. La notion de développement après la Seconde Guerre mondiale a servi à inventer la notion de sous-développé. Et vous allez tout de suite comprendre où est le problème dans le développement. C'est que c'est au singulier. On parle du développement. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un, le nôtre, je dis l'Occident. Il n'y a qu'un développement, il n'y a qu'une route. Donc, comme il n'y a qu'une route, ceux qui ne sont pas au même endroit que nous, ce n'est pas qu'ils sont ailleurs, c'est qu'ils sont derrière. C'est comme ça qu'on a inventé le sous-développement. Ils n'étaient pas juste les autres, ils n'étaient pas juste africains ou dans une île du Pacifique, non. Ils étaient forcément sur la route du progrès. Et comme clairement, en technique notamment, ils étaient moins avancés que nous, c'est donc qu'ils étaient derrière. Bon, c'est pas sympa pour eux. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que, étant donné qu'il n'y a qu'une route et qu'on est tous dessus, et qu'ils sont en retard, ben on peut les accélérer. C'est légitime. On leur rend service. De toute façon, ils vont arriver au même endroit que nous parce qu'il n'y a qu'une route. Ah, ils n'ont toujours pas la médecine, les vaccinations, les routes, les choses comme ça. Ben, on va les leur mettre. Parce que de toute façon, il n'y a qu'une route. Donc, ils allaient passer par là. Ils vont passer par les mines, les choses comme ça. Bon. Vous voyez à quel point c'est une stratégie totalement colonialiste. C'est une stratégie de domination. Mais comment, d'où elle vient? Pourquoi elle a marché? Elle a marché parce que c'est une image. Les mythes, ça marche. Tout le monde n'est pas capable d'inventer une histoire qui marche, qui mobilise les gens et qui apparaît crédible. Pourquoi le mythe du développement a marché? Ben parce qu'il s'est appuyé sur ce qu'on disait tout à l'heure, le sens du progrès, là où il a du sens. Il y a des choses qui se développent, c'est les êtres vivants. Les êtres vivants, ils poussent. Pour quelque chose qui est un petit arbrisseau, mettons que ça soit, je ne sais pas, un être, par exemple, il n'y a qu'une route, il n'y a qu'une façon de devenir un être. Il va devenir un être. Il ne va pas devenir un sapin ni un noisetier, il va devenir un être. Les êtres vivants, c'est pareil. Le petit animal d'une espèce, il va devenir l'animal, le petit tigre va devenir un grand tigre sur une voie qui est tracée et il va se développer. Et donc, c'est une image très forte qui vient des images de la nature de Rousseau, du monde romantique. Le développement des êtres vivants, y compris l'être vivant que nous sommes nous-mêmes, ça nous parle. Nous savons ce que c'est et nous savons que c'est une valeur. Et nous savons que le contraire du développement, c'est la mort. Et donc le développement, c'est naturel, c'est une bonne chose, c'est une valeur. Sauf que c'est une image. Et quand j'ai lu le livre de Rist, ça arrive quand on lit des bons auteurs, je me suis senti stupide parce que j'aurais pu y penser tout seul. Rist dit, c'est une image qui ne s'applique pas ni aux sociétés humaines, ni aux États, ni aux sociétés financières, ni au business. Pourquoi est-ce qu'une entreprise devrait se développer? Alors le colonialisme, on va tous, enfin j'espère, se dire, bon d'accord, c'était une erreur, ok, on expiait, on est parti. Mais non, déjà, c'est pas vrai, il y a un néocolonialisme. Mais regardez pour les entreprises. Vous voyez une réunion, de stratégie ou quelque chose comme ça, un comité directeur, où quelqu'un dit, pourquoi on se développerait? Pourquoi on se développerait? Très bien de ne pas se développer, c'est bien ce qu'on fait là, on gagne notre vie, on fait des bons produits. Je crois qu'il aurait des problèmes. Il aurait des problèmes parce que si on ne se développe pas, on meurt. Ça c'est vrai, mais pour les êtres vivants, vous suivez le raisonnement, c'est une image de dire qu'une entreprise doit se développer. Personne n'a prouvé qu'une entreprise doit se développer, et souvent d'ailleurs elle meurt de vouloir se développer, notamment parce qu'elle s'endette. Ben, idem les États, idem tous les systèmes économiques, vous en avez probablement entendu parler. Ils sont en train de mourir, de s'être endettés, parce qu'il fallait absolument se développer. Là, c'est la mauvaise idée du progrès. Je boucle sur le début de mon raisonnement, qui est de piquer Ariste, hein, je ne le cache pas. Le problème dans le développement, c'est que c'est au singulier, c'est qu'il n'y en a qu'un. C'est comme ça qu'on a fabriqué l'obligation de se développer, des logiques de domination néocolonialiste, elles existent encore. Je n'ai pas suffisamment expliqué ça, si je prends encore une minute. C'est comme ça que le progrès, au singulier, lui aussi, va s'imposer aux gens. Le progrès, c'est par exemple, on va dire à la grand-mère que c'est fini, il n'y a plus d'employés de banque, il faut qu'elle mette une carte et qu'elle tape un numéro et qu'elle a intérêt à s'en rappeler et qu'elle ne peut plus traverser la route comme avant parce qu'on l'a élargie, c'est une voie rapide, etc., etc. Et c'est ça, le progrès. Et peut-être que les gens vont dire, c'est pas un progrès, c'est pas mieux. Mais c'est parce qu'on garde progrès au singulier. Alors que regardez, quand on parle, on pourrait dire des développements. On pourrait dire des développements et dire il y a des développements différents. Il y a des sociétés qui se développent. Et espérons pour elles qu'elles ne vont pas passer par les mêmes choses que nous, notamment le 19e siècle, les guerres mondiales, tout ça. S'il y a des sociétés qui peuvent se développer en faisant moins mal que nous, écologiquement et humainement, ça serait une bonne idée qu'elles le fassent. Et comme elles peuvent regarder tout ce qu'on a fait de mal, elles peuvent aller rapidement, pas mal de sociétés asiatiques qui réfléchissent à ça, rapidement à des choses mieux en passant par ailleurs, en essayant d'être ailleurs. Alors, après, il faut trouver des exemples, ils vont être plus ou moins idéologisés, on est plus ou moins compétent pour en parler. Il y a une société non occidentale que je connais un peu, c'est le Japon. Le Japon a clairement essayé d'aller ailleurs sur certains aspects. Leur problème, c'est pas tellement qu'ils sont plus technologisés que nous par certains aspects, c'est que, et je vais surtout pas dire... ils ont su garder, ou pourquoi pas dire aussi, ils ont su rester en retard sur certaines choses. Ils ne sont pas en retard. Quand vous voyez un intérieur japonais, quand vous vous intéressez à des éléments de la culture japonaise familiale ou culturelle, ce n'est pas du retard. C'est extrêmement sophistiqué. Juste, ils sont ailleurs. Ils sont ni devant ni derrière. Ils sont ailleurs pour certaines parties de leur culture. Donc on pourrait avoir des développements pluriels et des progrès pluriels. Et on retrouve le pluriel. En fait, sur un enfant, on ne dit pas qu'il a fait, on dit qu'il a fait des progrès. C'est rare de dire c'est un progrès. On dit qu'il a fait des progrès. Il parle mieux, il marche. C'est ça les exemples de l'humanisation. Et par rapport à soi-même aussi, on n'a pas un plan, enfin j'espère pour vous, un plan de développement à 3 ans comme une entreprise. Mais on fait des progrès. On dit j'essaie de faire des progrès et je n'y arrive pas. Et ces progrès, ils sont sur des voies plurielles. On retrouve cette idée que, bien sûr qu'on continue à avancer et à inventer, mais on était mal parti, à mon avis, dans un modèle mécanique, idéologique, violent et de domination. Juste à cause, à la limite, du singulier, mais surtout du mythe, bien sûr, qui est dans les notions de progrès et de développement que je viens de critiquer. Et du coup, ça amène au titre de ce débat qui était la défaite du progrès. Mais s'il y a une défaite, c'est que c'était une bataille. Pourquoi défaite? Alors, partout dans la langue, certains d'entre vous peut-être s'intéressent à la non-violence. La langue est incroyablement violente. On emploie combat, défaite, victoire pour tout le temps, tous les jours, pour tout. C'est pas une bonne idée. Peut-être on pourrait se dire, le progrès n'est pas un combat qu'on doit gagner ou perdre. Et retrouver un vrai sens de développement, des choses plus écologiques, pas seulement vertes, mais des choses qui poussent, qui se développent, qui partent dans plusieurs directions, comme l'évolution, et pas tracées sur plan par une idéologie ou par les technocrates.
Eh bien voilà.
Est-ce que vous appliqueriez la même logique d'analyse si vous considérez les universaux qui ont été en quelque sorte imposés par les Occidentaux dans la définition de la Charte universelle des droits de l'homme? Pas plus tard que la semaine passée, je discutais avec un vieux Mossi du Burkina Faso qui me disait, dans notre culture traditionnelle Mossi, nous ne naissons pas tous libres et nous ne naissons pas tous égaux. Il a longuement développé ce qu'il entendait par là, dans la mesure où, quand on est dans la société traditionnelle Mossi, on est inévitablement défini en tant que sujet dans un contexte familial spécialisé dans tel ou tel métier, dans telle ou telle prestation par rapport au collectif, etc. Si bien que, bon, je vous pose la question de savoir si vous appliqueriez le même type d'analyse, c'est-à-dire cette imposition en quelque sorte colonialiste au niveau des valeurs.
Bon, je crains que la question s'adresse à moi. C'est une très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée, c'est ce qu'on dit pour gagner quelques secondes. Alors, je crois qu'on est, je suis tout à fait d'accord avec votre question, c'est une très bonne question, on est quelque part entre deux extrêmes qu'on ne peut pas soutenir. Un premier extrême, celui que j'ai dénoncé, c'est l'extrême du colonialisme. Et il est quand même présent dans la volonté d'imposer un système de valeurs trop rigide. Je crois qu'on va s'en rendre compte, on commence à s'en rendre compte, notamment dans la confrontation avec une vraie puissance maintenant, qui est la Chine. Les étudiants chinois qu'on a dans nos universités, qui arrivent directement de Chine, nous font comprendre que notre perception des valeurs, ils ne veulent pas soutenir le contraire, hein, mais ils ne mettent pas forcément les mêmes choses, pas les mêmes priorités, pas les mêmes hiérarchies de valeurs. Donc je crois que d'un côté, vouloir décalquer notre système de valeurs largement judéo-chrétien, et quand on n'est pas judéo-chrétien, on se rend compte à quel point il déborde de judéo-christianisme. Bon, ce système de valeurs-là, c'est pas une bonne idée de vouloir l'imposer tel quel, par exemple dans un pays bouddhiste. Je crois que le bouddhisme n'a rien à envier aux religions occidentales. Donc ça, on peut pas. C'était la logique du colonialisme. Et de l'autre côté, on ne peut pas non plus être dans ce que les philosophes appellent le relativisme culturel. Relativisme culturel absolu, disant ben nous, nous valorisons la liberté, l'égalité entre les sexes, mais il y a d'autres pays où vous y faisiez allusion, on est esclave, ou d'autres pays dans lesquels il y a des castes avec des intouchables, l'Inde par exemple, deuxième grand pays émergent, et puis il y a pire, par exemple les mutilations sexuelles des femmes. Ça, c'est pas jouable non plus. Alors, ne me demandez pas qu'est-ce qui est le pire entre ça et le néocolonialisme, c'est pareil. Aucun des deux n'est acceptable. Donc, comment on fait pour se situer entre les deux? On le cherche. Je crois que c'est ça qu'on cherche. Et je n'ai pas de réponse à votre question, mais je suis d'accord pour dire que c'est là qu'est le problème, c'est ça qu'on cherche. Et il y a, je crois, deux façons d'effectuer cette recherche. Il y a une façon qui est conflictuelle et qui consiste à dire, c'est nos valeurs, ben malgré tout, on va les imposer. Et il faut que dans tous les pays du monde, il y ait le même genre de constitution politique, le même genre de structure familiale, par exemple, que chez nous. Et on conçoit un affrontement. Et nous, occidentaux, ça ne nous gêne pas tellement parce qu'on est en train de le gagner, cet affrontement, jusqu'à présent. Mais la logique d'affrontement n'est peut-être pas la bonne. Il y a peut-être une autre logique. La logique, alors, un petit peu plus écologique, qui reste quand même une compétition de discussion sur les valeurs et de libre accès aux valeurs. Ça ne résout pas tous les problèmes. Par exemple, la libre circulation. La libre circulation des idées, des hommes, mais aussi des femmes, éventuellement des enfants. Ça permettrait peut-être de créer des soupapes de sécurité dans certaines sociétés. Des phénomènes comme l'Allemagne de l'Est, par exemple. Il me semble que si réellement les humains pouvaient vraiment accéder au système de valeurs des autres, les gens de l'Allemagne de l'Est avaient la télé de l'Ouest. Ça n'a pas été nécessaire de les envahir. Ils voyaient la réalité du monde à l'Ouest. Et leur système de valeurs, celui qu'ils héritaient, même si c'était à courte vue, il a été modifié. Et puis, ils pouvaient y aller. Ils arrivaient quand même à sortir. Vous savez qu'ils votaient avec leurs pieds. Donc, on peut, il me semble... Là, l'Occident a gagné sans se battre. Il me semble qu'on peut encore, pour les valeurs largement humanistes, le cœur de nos valeurs humanistes, on peut jouer ça. On peut jouer un libre marché des systèmes de valeurs dans lequel il resterait des sociétés, mais les gens n'auraient pas envie d'y rester ou d'y vivre ou auraient envie de les modifier. C'est un scénario optimiste, mais j'avais dit déjà, je suis optimiste et même tendance naïve. Bon. Donc, on peut toujours espérer que ça se passera comme ça, et on peut essayer de faire exister de la libre circulation. D'abord des idées, l'Internet est l'outil absolument extraordinaire, et de la libre circulation aussi des humains. Et regardez, alors, je m'éloigne de la frontière que j'avais mise de ce côté, celle de pratiques inacceptables. Mais regardez aux États-Unis des sociétés comme les Amish, par exemple. Vous voyez, si vous connaissez les Amish, on en parle en ce moment parce qu'ils ont des problèmes avec la justice. Voilà, ceux qui ont des barbes, des chapeaux, ils parlent un dialecte allemand du 17e, je crois. Ils roulent dans des calèches avec des chevaux, etc. Ils sont intégrés, ils ne veulent pas de technologie. Bon. Mais on peut rentrer et sortir comme on veut d'une communauté Amish. Et les Amish, je crois que c'est à 18 ans, je ne suis pas sûr de l'âge, doivent aller passer, je crois que c'est un an, à l'extérieur. Et s'ils reviennent, ils reviennent volontairement. Ben moi, je n'ai rien à dire au système Amish. Alors après, il faudrait regarder les détails, par exemple la polygamie, mais bon. Vous sentez qu'on est sur des questions de négociation. Donc il me semble, je finis de répondre à votre question qui méritait une réponse développée, je trouve. Il me semble que oui, il y a un problème. Mais ce problème, nous avons encore le choix de ne pas le traiter par l'affrontement, de le traiter par un système ouvert de dialogue, de concurrence. Moi, je suis convaincu que nous sommes en concurrence de valeurs, on dirait axiologique en philosophie, mais éthique. Notre système de valeurs, notamment ouest européen, il est en concurrence avec le système nord-américain qui est différent, avec bien sûr d'autres systèmes, et que nous pouvons assumer cette espèce de compétition par la discussion et le partage qui ne serait pas une logique d'affrontement, et qu'on peut imaginer une sorte d'unification douce, progressive, écologique, une espèce d'évolution dans les systèmes de valeurs qui ne passerait pas par l'imposition, et ça résoudrait le problème que vous posez en principe.
Oui, je pense que il faut il faut défendre une certaine liberté occidentale, pas la liberté occidentale telle qu'elle est promue par certains gouvernements occidentaux, mais la liberté occidentale telle qu'elle est pensée, par exemple, dans un festival des libertés. C'est un luxe inouï d'avoir un festival des libertés. Je pense que tout Damas, tous les Syriens en rêveraient. Et ce serait un très grand outrage que de. Ce serait un grand outrage à leur sacrifice que de, disons, faire la fine bouche par rapport à la liberté colossale dont nous jouissons. Liberté qui se veut formelle. Et la grandeur de certaines valeurs occidentales, et je dis occidentales telles qu'elles sont pensées plutôt par des intellectuels, par des psychologues, par des philosophes, par des écrivains, par des gens de culture, et pas par des gouvernements, mais cette grandeur, c'est d'être suffisamment formelle que pour pouvoir accueillir en elle-même leur contraire. Je veux dire, la liberté, c'est aussi la liberté de laisser penser l'autre qui ne n'est pas libre. Il y a un formalisme dans certaines valeurs occidentales qui est un formalisme qui est fait pour que l'autre puisse avoir raison ou pour qu'on puisse démocratiquement dire qu'on n'est pas d'accord avec la démocratie. Bon, ce formalisme-là est profondément sain. Il est, à mon sens, un signe de maturité intellectuelle. Et il est un des objets du progrès. Ce formalisme-là, ce formalisme des valeurs, à mon sens, c'est quelque chose vers lequel on peut désirer progresser. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens en Syrie, par exemple, désirent progresser vers cela également. Dans mon vocabulaire, moi, j'appelle ça un attracteur. Et si la notion de progrès me fascine tellement, et si je trouve que c'est une notion qu'il faut à la fois dégager des mauvaises interprétations que j'ai dites au début, messianiques, linéaires, et cette capture par les sciences et les techniques. Et je pense qu'avec Michel, on est assez en phase pour dégager cette notion de certaines interprétations idéologiques fortes. Mais si, en la dégageant, ils font continuer à la penser, ou on peut continuer à la penser, c'est parce qu'elle est le lieu où l'on peut réfléchir à ce qui nous attire, à ce que sont nos attracteurs. Et l'attracteur, dans une pensée théologique, il était hors de nous. Je veux dire, dans toute la pensée théologique médiévale, ce qui attirait l'humain et ce qui le faisait progresser, parce qu'on ne progresse que vers ses attracteurs, il était transcendant, il était hors de lui-même. Et la notion d'âme, c'est ça aussi, c'est mettre l'attracteur de l'homme en l'homme. Avec la notion de progrès, on a non seulement, d'une certaine façon, laïcisé ces attracteurs, mais on en a fait le sujet d'une construction humaine. C'est-à-dire que, humainement, nous choisissons avec le progrès l'objet de notre désir, ce que sont les attracteurs. Il se fait que ces attracteurs sont devenus, on pourrait presque dire dans le monde technologique, ces attracteurs sont devenus des attractions parce qu'ils se sont figés. Ils se sont figés matériellement et on ne voit plus toujours bien les valeurs, on ne voit plus toujours bien les désirs qui nous font consommer pour consommer pour consommer. Là, c'est vraiment le côté capitalistique du désir. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il faut continuer à sauvegarder ce désir d'attracteur, parce que finalement, il n'y a qu'un attracteur dont on est absolument sûr, et c'est la mort, et c'est la pulsion de mort. Hein, je veux dire quelque chose qui est mentalement dans l'horizon et qui volens nolens nous attire, c'est cette mort. Donc la notion de progrès est une grandeur de l'humanité, et là il y a une grandeur des Lumières aussi, c'est une grandeur de la défier. De la défier en mettant quelque chose qui est davantage que des écrans de fumée en soi, et cet horizon jusqu'à présent indépassable, autre chose que les écrans de fumée, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la, non seulement de la conservation de l'humain, mais en plus peut-être de l'éducation, peut-être de la transmission et sûrement de la création artistique ou philosophique. Donc dans ce domaine-là aussi de l'art, dans ce domaine-là aussi de la philosophie, pour moi il y a progrès. On dit souvent, mais non, le progrès c'est pour les scientifiques, c'est pour les techniques, c'est pour les techniciens, etc. Quand vous demandez à un artiste est-ce que le progrès existe en art, il ne sait pas toujours quoi répondre. A priori, il va dire, entre un Degas et un Picasso, je ne vais pas comparer. Ce sont deux mondes différents, certes. Ce sont radicalement deux mondes différents. Mais Picasso, lui-même, dans sa vie, il y avait les attracteurs. Il y avait un rapport à la forme plastique qui le faisait travailler, qui le faisait se lever chaque matin, qui le faisait de même. Donc dans la vie de ces artistes-là, il y a eu des attracteurs qui ont cherché ce progrès-là. On n'est plus donc, dans une conception plus idéologique où on peut considérer qu'il y a vraiment un progrès en art, mais il y a un progrès pour les artistes. Idem en philosophie, on ne va pas comparer Platon à Spinoza pour savoir lequel est davantage un progrès que l'autre. Mais les deux, et Platon et Spinoza, mettent en scène un progrès de l'âme vers une lumière chez Platon, vers la joie chez Spinoza. C'est pour ça qu'il faut trouver les bonnes alliances entre plusieurs types de progrès. Et je pense, pour reboucler, parce que j'ai un peu digressé par la question, mais réexpliquer quelque chose sur notre thème, il me semble, je pense que cette notion de liberté occidentale, quand elle est pensée comme suffisamment formelle, est quelque chose qui montre une certaine maturité intellectuelle. Mais elle peut bien sûr être instrumentalisée mauvaisement, oui.
Continuons donc les questions.
Oui, bonjour. Bonjour. Donc, comme vous dites, il y a plusieurs types de progrès, plusieurs types de développement, et ça depuis le début de l'histoire. Hein, le progrès fait partie de la vie, et on continue à progresser, à avancer. Ça peut être dans différentes directions, dans différents domaines. Et comme vous dites, il y a des progrès techniques, progrès intellectuel, social aussi, et je trouve le progrès des mentalités à travers le temps et l'espace. Et ne croyez-vous pas que il faut continuer à axer l'évolution des mentalités et également des consciences, parce qu'on dit souvent que l'être humain n'utilise que 10% de son cerveau, alors que bon, il y en a qui utilisent plus, d'autres peut-être moins, mais ne faudrait-il pas encourager à l'évolution des mentalités de la conscience pour mieux s'approprier justement les progrès. Voilà.
Oui, vous êtes si nombreux clair à poser des questions, donc on va faire des réponses plus courtes.
Oui, hein.
Ah, si on prend une série, on va les perdre. Moi, déjà, là, j'ai du mal à tout retenir, donc ça va être possible.
Mais c'est pour l'évolution des mentalités de la conscience.
Ouais. Donc, deux minutes, une minute. Oui, vous avez complètement raison. Il faut développer des progrès différents. Alors, l'histoire des 10% du cerveau, c'est une légende, il faut laisser tomber. C'est parce qu'à une époque, on ne savait pas observer quand les neurones étaient actifs, mais depuis qu'on est capable de bien regarder, on voit qu'ils marchent tous. Bon, mais on ne s'en sert pas forcément bien, c'est autre chose. Mais on n'en a pas 90% qui roupillent, il n'y a pas de moyen de les réveiller non plus. Bon, ça, on laisse tomber. Par contre, votre idée, c'est bien ça, c'est le pluralisme. On va progresser dans différents domaines. On va progresser dans sa capacité d'expression artistique, dans sa sensibilité aux autres, dans la baisse de son angoisse par rapport au temps, etc. On a tous plein, mais le pluriel, vous avez compris l'importance du pluriel, on a tous plein de progrès à faire, et effectivement, c'est ça qui est humain, on n'a que ça à faire. Il ne s'agit pas de soi, en soi, de remettre en question l'idée, il s'agit de remettre en question la manière dont on en a été désapproprié. On a fini par ne pas comprendre que le progrès, c'est nous. C'est la manière dont chacun de nous progresse, et au pluriel, dans des tas de choses différentes, et pas seulement dans son compte en banque, par exemple.
Moi, je voudrais vous entendre sur la notion d'échec. Est-ce qu'elle peut générer du progrès, même une vie réussie, une vie ratée? Qu'est-ce que ça vous évoque en matière de progrès?
Oui, mais volontiers. je pense que c'est fait à nouveau partie du mythe un peu trop facile du progrès que de s'être représenté comme linéaire, comme un progrès sans régression, comme un progrès sans échec aussi. D'une certaine manière, il y aurait comme un théorème métaphysique à vérifier, que chacun peut vérifier, chacun peut avoir un avis là-dessus, qui dirait que dans une société, ce qui se gagne d'un côté peut engendrer une perte d'un autre côté. Ça, ce serait une manière de voir les choses. Ça veut dire que quand on développe un type de communication, peut-être perd-on d'autres types de communication. Ceci pour inscrire tout de même la notion de régression, en tout cas, dans la notion de progrès aussi. C'est en perdant des choses qu'on arrive à en trouver d'autres. Maintenant, ce qu'est le malheur d'une vie vraiment marquée par un échec, c'est une confrontation individuelle avec une capacité personnelle de transformer parfois cet échec en autre chose. Je pense que les humains, là, sont beaucoup plus intelligents que toutes les théories des philosophes. Et la variété des expériences est bien plus multiple que tout ce qu'on peut en dire, on peut en anticiper. Sur le principe, ce qui est sûr, c'est qu'il faut récuser une idée de progrès où l'échec ne serait pas présent. On désapprend tout le temps pour apprendre à nouveau. L'échec est au cœur des apprentissages. Maintenant, l'échec est parfois douloureux, l'échec est parfois très douloureux, et il faut qu'il propage le moins possible sa douleur, et surtout qu'il n'ampute pas, ce qui n'est pas une progression, parce que je ne pense pas qu'il faille non plus faire de ce mot de progression une idole, mais qu'il n'ampute pas quelque chose comme une conscience, ou qu'il n'ampute pas quelque chose comme un désir, ou comme la capacité de penser des attracteurs.
Oui, c'est important cette idée que l'échec qui fait souffrir, c'est un cas particulier, respectable, qui ne met pas en question la notion de progrès. Quand on touche à la souffrance, c'est plus grave que ça. Et il y a un dicton dans plusieurs cultures disant tout ce qui ne te tue pas te fortifie. Donc il y a des échecs qui tuent, mais on peut arriver à apprendre à ne pas réussir certaines choses. Et je crois que alléger cette souffrance de l'échec, dans les cas où c'est possible, pas dans tous, c'est comprendre qu'il y a plusieurs répertoires. Et progression que tu as utilisé, qu'est-ce qu'on appelle, l'expression la progression de carrière. J'ai progressé. Ça, dans une vie professionnelle, ça veut dire je commande plus de gens et je gagne plus d'argent. C'est ça, j'ai progressé. Je suis passé dans les hiérarchies plus haut, je commande plus de gens et je gagne plus d'argent ou j'ai un plus gros budget à gérer dans mon service. Bon. Mais ça, c'est fini. On continue comme ça. On fabrique de la souffrance. On fabrique de l'échec. Parce qu'il n'y a qu'un seul référentiel. On va compter combien d'années d'études on a fait, combien d'argent on gagne, combien d'amis on a sur Facebook. Plusieurs référentiels, c'est plus intéressant. Parce qu'on va pouvoir dire, j'ai changé de travail, je gagne moins, j'ai personne à commander ou je commande moins de gens. Je fais quelque chose qui a peut-être moins de prestige, mais vraiment, c'est même pas la peine de dire c'est un progrès, mais je me sens mieux, je suis plus heureux, je suis moins souvent humilié, je vais au travail avec plaisir, j'ai le sentiment de la valeur de ce que je fais. Parce qu'il y a plein d'autres référentiels que le référentiel des euros et du pouvoir. Donc dans l'idée même de pluralisme, on enlève de la pression sur chacun des indicateurs, comme on dit dans les entreprises, qui font qu'on va être en rouge sur certains, en vert sur d'autres, mais on est dans une autre logique que ça, on est dans une logique suffisamment riche où on comprend qu'on pousse, et quand un arbre pousse, une belle métaphore, on se développe, on progresse, comme des êtres vivants, parce qu'on est des êtres vivants. Et quand un arbre pousse, ben, y a un endroit où la branche, elle meurt, où elle se casse, où lui arrive quelque chose. Ça n'empêche pas l'arbre de pousser. Un arbre, quand il pousse, il ne remplit pas ses objectifs. Il pousse, il fait quelque chose qui est de l'ordre de la vie que nous, les humains, nous sommes capables de faire. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes capables de comprendre des logiques de développement qui ont du sens et qui ne sont jamais plaquées sur ces systèmes de valeurs. On n'emploie pas idéologique pour ces systèmes de valeurs, mais si, je crois que le système des diplômes, des places sociales, de l'argent, c'est un système de valeurs idéologiques, de la taille de la voiture ou des choses comme ça.
Je voudrais poser une petite question.
Non,
vas-y,
Pascal. Oui. Non, c'était pas rebondir directement parce que je pense que voilà, Michel a dit les choses. Je voulais juste apporter pour continuer à complexifier le débat. Apporter une idée de plus encore. C'est que les objets techniques sont souvent absolument magnifiques. Absolument magnifiques. Il y a dans ce téléphone cellulaire, il y a dans cette bouteille d'eau, sa forme, etc. Il y a une culture technique humaine qui est profondément impressionnante. On l'oublie trop souvent, on les consomme, on les regarde. On les consomme. Si, que ce soit dans un état de conscience un peu modifié, ou avec un esprit différent, peut-être plus poétique, on regarde vraiment un objet technique et on y voit la somme de connaissances humaines et de travail humain qui y est développé, on peut prendre conscience aussi que ces objets ne font pas uniquement partie du problème. Et notre technologie, à mon sens, n'est pas le problème. C'est l'utilisation de notre technologie. C'est la mentalité humaine qui est derrière notre technologie qui est problématique. Moi, je fais ma thèse sur un monsieur tout à fait fascinant qui s'appelle Gilbert Simondon, qui a travaillé dans les années 50, 60, qui était un grand penseur de la technique. Et il écrit un livre qui s'appelle « Le mode d'existence des objets techniques ». Et cet homme, solitaire, passionné par la technologie, alors que la mode était au marxisme et à la psychanalyse en France, qui avait des compétences réelles pour monter une première télévision de France, pour faire beaucoup d'expériences dans cette espèce de labo privé un peu à la Jules Verne comme ça, et d'ailleurs ça l'a mené en psychiatrie à Sainte-Anne les 10 dernières années de sa vie, mais enfin il a développé un rapport à l'objet technique philosophiquement, existentiellement presque aussi, qui est un rapport fait d'un grand respect, parce que il disait les objets techniques sont nos nouveaux esclaves. Et de la même manière que la pensée antique a été une pensée qui a cherché la libération de l'esclavage, de la même manière qu'on considérait autrement, nouvellement, nos objets, en n'y voyant pas que du jetable, du tout, en y voyant déconcentré de culture humaine, d'un autre type de culture que la culture livresque, mais d'une culture technique qui demande un grand savoir et qui a sa noblesse aussi, est important. Et je pense que dans tout ce débat, c'est aussi ça qu'il faut mettre en avant pour bien montrer que cette notion de technologie, de progrès technologique est diablement complexe. On est dans, je veux dire, ce qu'est la technologie de cette salle, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Alors on pourrait dire ça change rien. On pourrait dire ça change rien. On pourrait dire finalement si la condition de la salle était tout à fait différente, si on était sur une agora grecque, on aurait peut-être le même discours. C'est vrai qu'il y a quelque chose de pérenne dans la philosophie. Mais tout ne se passe pas dans le monde de la parole. Et si on était peut-être, au lieu de discuter avec Socrate sur l'agora, invité à aller chez lui, à voir comment on vivait matériellement au 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est là que le décalage se crée. Et c'est là aussi qu'on voit quelque chose comme une fatalité par rapport à la mort, que notre culture, et peut-être une fatalité par rapport à la misère aussi, que notre culture, récréable sur toute une série de points, essaye cependant de mettre loin de soi. Parce que la fatalité de la misère et la fatalité de la maladie et la fatalité de la mort sont des objets que notre type de progrès, essaye de prendre à bras le corps, c'est le cas de le dire, avec des conséquences parfois mauvaises, mais enfin, avec tout de même, en en faisant tout de même des attracteurs, en en faisant des combats sociaux cette fois-ci. Donc les choses sont... le progrès, pour moi, c'est ni un mythe, ni une utopie, c'est un avatar de la question humaine fondamentale, que faire ?
En fait, moi, j'aimerais, à ce stade-ci, partager plutôt une intuition avec les deux orateurs ici. Et en fait, le progrès a été le fait d'une réflexion collective sur quelques siècles, mettons depuis 3 siècles, dans une tradition et dans un paradigme qu'on va dire spéculatif, qui pour moi conduit à une double impasse, qui est que plus les forts protègent les faibles, plus les faibles se reproduisent et plus l'espèce ne progresse plus. Premier paradoxe. Bon, pas très moral, mais c'est comme ça. Deuxième paradoxe, deuxième impasse, c'est probablement que finalement, les outils eux-mêmes de la sélection naturelle sont procurés par l'expérience qu'on fait de nos propres limites. Et donc, la volonté de les dépasser, cet attracteur étrange, suggère un changement de paradigme, et c'est là où je pose ma question et je présente une intuition, qui est un changement complet du spéculatif, fut-il ritualisé, rationalisant, peut-être même humaniste, et discret, vers quelque chose d'opératif. Et à mon avis, c'est sans morale, sans dichotomie, sans bien, sans mal. Et c'est plutôt le fait que, peut-être que le démon socratique, qui est le kauté de Spinoza, le démon de Socrate ne dit qu'une seule chose, ne fais pas ceci. Un peu mystérieux. Et l'intuition que j'ai, c'est que finalement, le progrès, c'est peut-être une perversion spécifique de l'humanité consciente, à devenir amique, le mec conscient que... Il y a des externalités positives à une perversion, une joie qu'il a d'aider les autres, malgré le cours de la nature, une naturalisation du surnaturel et une surnaturalisation du naturel. Et je pense que peut-être ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus opératif de quitter cette prémodernité dichotomique christianisante à défaut d'être messianique, qui fait qu'en réalité, c'est beaucoup plus compréhensible de maintenir le progrès comme perversion, et donc le progressisme comme mythologie et comme utopie, que si on en fait une vertu.
C'est une question assez simple, en fait. Hein. C'est une question assez simple. Après. Et je répondrai oui.
Demande un peu d'autorité dans ce débat, je vais en imposer un paquet. Alors, si vous voulez, on peut reprendre une structure plus ferme, mais dans ce cadre-ci, les questions viennent du public, je ne peux pas les choisir par avance. C'est un peu plus compliqué.
Oui, c'est bon,
je ne sais pas si Pascal est content de cette réponse-là.
Non, parce qu'il y a deux... Il y a deux questions... tout à fait contradictoire, et je suis divisé entre une question de là-bas qui me demanderait d'être difficile, et puis ce que vous dites et qui veut dire qu'on n'a pas été assez clair ou assez structuré. Alors vraiment que de bonne foi, on essaye de l'être. J'ai pas l'impression qu'on soit trop jargonnant. J'espère que non. Mais enfin bon, on utilise les mots et on utilise la structure que les mots peuvent donner. La question de tout à l'heure, est-ce que le progrès est une perversion? Il faut voir ce qu'on entend par perversion. Moi, je. Pardon? Totalement. Mais il n'y a pas de nature humaine. Je veux dire, notre main étant ce qu'elle est, notre main est l'outil des outils. Elle n'est pas spécifique. On peut faire absolument tout avec notre main, et c'est ça l'espèce humaine. C'est ça la liberté déjà somatique de l'espèce humaine, c'est de pouvoir faire absolument tout. Donc c'est une perversion par rapport à la nature. Ça, oui, tout à fait. C'est ce qui nous fait non animal.
Oui, j'espère que c'est structuré. Vous avez cité les forts et les faibles, mais on est tous des faibles. C'est contre la nature que les faibles survivent, mais nous survivons, la plupart d'entre nous seraient morts, et de toute façon, la branche des primates sur laquelle on est, elle allait très très mal. Ils ont presque tous disparu. Nous, les humains, avec la main, avec la culture, avec la technologie, nous avons inventé quelque chose qui est clairement autre chose que la nature, autre chose que l'évolution, et progrès est peut-être pas le meilleur mot pour le dire, mais on est bien un deuxième phénomène sur Terre. Sur la planète, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de la vie, qui marche tout seul, et il y a le phénomène de ce que font les humains, qu'on peut appeler la technologie, la culture, ce que vous voulez, dans lequel il y a, vous avez tout à fait raison, des inversions de fonctionnement, et notamment le fait que les faibles survivent, se développent, et qu'il y a des tas de systèmes d'assistance, et on a créé des choses qui s'appellent des valeurs et qui n'existent pas dans la nature. Là, je crois que nous, on est d'accord pour dire qu'on assume.
Bon, je peux à présent poser ma question ? Parce que je voulais rebondir sur votre intervention précédente. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour admirer le génie humain qui produit tous ces objets. Mais il ne faut pas oublier que pour se servir de cette bouteille, de ce téléphone, il ne faut pas oublier les millions de gens qui travaillent à la chaîne à longueur de journée, s'il vous plaît, et qui ne font pas ça avec leurs mains, qui font ça à l'aide des machines. Et je trouve qu'il y a un phénomène qui est quand même constant dans l'histoire de l'humanité, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme qui permet ce progrès.
Totalement. Oui, totalement. Vous faites bien de le dire. C'est certain que quand on essaye de penser la technologie, on la pense presque toujours sans l'économie et sans la guerre. Les deux grands moteurs de la technologie, c'est l'économie en ce qu'elle suppose aliénation, et c'est la guerre. Le philosophe dont je vous parlais, Simondon, c'est quelqu'un qui a eu une réflexion sur la technologie qui était vraiment une technologie dans une bulle. Il a essayé de penser l'objet, il a essayé de penser l'objet technique déconnecté du système économique et du système guerrier, puisque nos ordinateurs, par exemple, sont issus en droite ligne de la guerre 40-45 et des recherches liées aux machines de codage, allemands. La technologie, enfin c'est le fordisme, c'est le post-fordisme, etc. La technologie impose une déstructuration du rapport du travail entre l'homme et la machine, parce qu'à partir du moment où on a des énergies mécaniques, ça veut dire qu'à partir du moment où l'objet n'est plus le prolongement du corps humain, comme le marteau peut simplement être le prolongement du corps humain, et à partir du moment où la machine devient machine à vapeur, par exemple, ça veut dire qu'elle a un moteur lié à un outil, là, on est dans un rapport homme-machine qui tourne à l'avantage de la machine, qui tourne toujours à l'avantage de la machine. qui tourne toujours à l'avantage de la machine, parce que le rythme machinique est un rythme qui en impose beaucoup plus, qui en impose beaucoup plus au corps humain. La question politique, profondément politique, de voir si on veut dépasser ces aliénations-là, bon, d'abord, premièrement, produire moins, consommer moins, c'est certain, mais deuxièmement, quel est le type de technologie qui permettrait de ne pas imposer son rythme à l'humanité. Et ça, on nous a profondément menti par rapport à ça. Toutes les années 60 ont été dans le mensonge par rapport à ça. Les années 60 nous ont vendu le loisir, nous ont vendu la civilisation du loisir en nous montrant les technologies. Et tout le monde sait bien que nos technologies actuelles, nos technologies informatiques, etc., nous font travailler et produisent de nouveaux rapports qui sont loin d'être des rapports de loisirs.
Excusez-moi, je pense que ce n'est pas la bonne question. Je pense que la bonne question, c'est la surproduction. C'est que produire, parce qu'on produit des milliards d'objets, on fait crever les gens à travailler à longueur de journée pour produire des milliards d'objets dont personne n'a besoin, mais dont on les convainc qu'ils en ont besoin, qu'ils doivent absolument les
faire. Je vais vous arrêter juste là. Ouais. Et il y a deux questions, je pense, clairement. Il y a que produire et comment produire, et je pense qu'elles sont liées, et il ne faut pas du tout en exclure une à l'autre. Et donc, je pense que produire ne fera pas l'objet du débat ce soir. La question est importante, mais on ne pourra pas l'explorer entièrement. Comment produire, je pense qu'on peut, essayer de répondre un petit peu. Comment est-ce que la technique peut... Je le dis parce qu'on ne peut pas répondre à tout. On ne peut pas explorer sérieusement chaque question à fond. Quoi.
Est-ce qu'on pourrait dire un mot sur surproduction ? Ok. Alors, je ne veux pas contester ce que vous dites, mais je crois qu'il faut réfléchir un cran plus loin. La surproduction, comment ça marcherait s'il n'y avait pas surconsommation ? Bon, vous l'avez dit, enfin, c'était implicite à votre question. S'il y a surproduction, c'est parce qu'il y a surconsommation. Parce que certains d'entre vous travaillent dans l'industrie ou dans des entreprises, vous savez très bien qu'on peut produire tant qu'on veut. Le produire, c'est pas dur. Le problème, c'est qu'après, il faut le vendre. Donc, supposons que c'est quand même la surconsommation. Quand vous rentrez dans un supermarché, que vous avez encore un peu de sous sur votre compte en banque, c'est vous qui allez acheter. Il y a une surproduction. Oui, devant des rayons, on voit que c'est délirant. Mais cette surproduction, elle est là parce que les gens l'achètent. Alors, vous dites qu'ils sont, je ne sais pas quel est le verbe que vous avez employé, mais c'est là que je crois qu'il faut mettre de l'éthique et de la réappropriation. Qu'on nous conditionne, ouais, qu'on cherche à nous influencer. Bien sûr, il n'y a que de ça. Système de valeurs sont sur la surconsommation. On est poussé à la surconsommation, mais on peut y résister. On n'y est pas obligé. Et là, je crois que c'est quelque chose dont c'est pratique, pour nous, c'est pratique de nous sentir obligés. Et on le fait tout le temps. On est obligé, on ne peut pas marcher à pied maintenant qu'on a les voitures. On est obligé d'acheter du Coca-Cola. Ça, j'y crois pas. Je me vois dans un rayon de supermarché et on ne peut pas m'obliger à acheter du Coca-Cola. Je n'achète pas. Alors le problème, c'est que dans beaucoup de sociétés humaines, les gens étaient réellement obligés de faire des choses. Il y a des pays où les femmes sont obligées de porter des voiles. Il y a des pays où il est interdit ou obligatoire de faire certaines choses. Mais nous, on a oublié. On a oublié ce que c'était que d'être obligé. Donc on est dans un système qui, oui, nous met la pression pour que nous travaillions, que nous consommions, que nous surconsommions. Mais on n'est pas obligé. Ce système n'a le pouvoir que nous lui laissons. Et je crois qu'on peut désamorcer le système, c'est ça que disent pas mal de gens aujourd'hui, les décroissants en particulier, on peut désamorcer le système du côté consommation. Si on arrête de les acheter, les grosses voitures, ils arrêteront d'en fabriquer. Le problème, c'est pourquoi on a envie d'en acheter.
Moi, j'ai une question très concrète. Donc, fin 19e, début 20e siècle, c'était des années du progrès dans la physique nucléaire qui ont mené à la production de la bombe atomique qui a été utilisée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le fait qu'elle ait Hiroshima et Nagasaki, le monde entier a été informé, horrifié. Et ça a donné une conscience mondiale que ce sont des choses qu'il faut éviter à tout prix. Il y avait un mouvement pacifiste qui était né. Et c'était essentiel pour arrêter. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas assisté à l'utilisation d'une bombe atomique dans le monde grâce à ces mouvements. Maintenant, fin 20e siècle, nous avons assisté au développement de la biologie moléculaire et qui a mené au développement d'une bombe biologique qui a été utilisée cette année, en 2011, en Allemagne. La bombe a été développée ici en Belgique, au sein du ministère de la Santé publique, dans les laboratoires de l'État. Et nous assistons, donc, elle a fait des centaines de victimes en Allemagne, et la population n'est pas informée. Donc nous assistons à quelque chose, à une censure incroyable, un mensonge médiatique, un silence imposé. Et quelque chose qui est tout à fait impardonnable et incompréhensible. Je voudrais vous demander comment est-ce possible, comment vous trouvez que c'était possible que dans un pays démocratique qui prône des valeurs occidentales, qui s'est dit humaniste et qui est défendeur des droits de l'homme, que ça a été possible, que c'était dans ce pays ici que cette bombe biologique a été produite et que la population jusqu'à maintenant n'est pas informée.
Mais je pense que ce ne sont pas des réponses qu'on peut donner à votre question, mais ce serait peut-être tout à l'heure d'autres questions, parce que moi je ne suis pas informé de ça, mais... Qui, quoi, où, comment se fait-il rien sur les sites, rien sur cela, pas d'information nulle part. J'ai vraiment, je pense qu'il y a d'abord toute une démarche de critique, de journaliste à avoir pour simplement vérifier cette information et puis aussi pour savoir comment il se fait que cette information n'aurait pas été diffusé si c'était exact avant de dire quoi que ce soit. Moi, j'ai pas été mis au courant de ça du tout. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans la salle a entendu parler de cela. Je ne pense pas. Pardon ?
Oui, mais peut-être que ça pose peut-être une question à travers ça. En effet, on ne pourra pas mettre la lumière là-dessus ce soir, je pense. Mais pour ce qui est de la compréhension des phénomènes technologique complexe, on pourrait parler simplement du nucléaire, comme on le disait, c'est déjà suffisamment complexe et dangereux. Qui a accès aujourd'hui à une compréhension du nucléaire qui pourtant est présent partout dans nos vies, en tout cas ici en Belgique, on fonctionne avec une électricité en grosse partie nucléaire, en France pareil. On n'a pourtant aucun accès, même de compréhension, au-delà du B.A.B.A. qu'on nous enseignera dans un cours de physique à l'école. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se réapproprier un outil aussi complexe et aussi dangereux que le nucléaire ou que ce qu'on fricote dans les laboratoires de tel ou tel pays, parce que si ça ne se fait pas en Belgique, ça se fait probablement ailleurs, et ce n'est pas moins grave pour autant. Donc voilà.
Mais là, on est en effet face à des systèmes industriels et étatiques qui sont a priori plus puissants, ou se présentent comme plus puissant que les citoyens. Je pense que se réapproprier, pour reprendre le mot de Michel, c'est choisir simplement pour soi à chaque fois qu'il est possible. Et il y a des possibilités d'autres types d'énergie pour pas à pas sortir du nucléaire. C'est peut-être ça, se réapproprier. Mais je pense qu'il ne faut pas là-dessus de précipitation. Ce sera quelque chose qui va se faire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, en poussant d'autres recherches. Et ce n'est pas pour rien que ce soit le pays qui a été obligé au pacifisme, c'est-à-dire l'Allemagne, qui a été obligé au pacifisme depuis 60 ans, qui a pris le premier la décision de petit à petit aller vers autre chose. Mais cette autre chose, c'est clair, serait, si c'était uniquement le gaz, le charbon et le pétrole, serait tout de suite vers des nouvelles tensions géopolitiques. Donc le quelque chose est quelque chose qui doit être technologique aussi, fondamentalement technologique. Les technologies vertes sont des technologies beaucoup plus coûteuses que les technologies nucléaires, par exemple, mais qu'il faudra qu'il faudra développer. Donc deux choses, un rapport à la consommation, et deuxièmement, c'est un rapport à la technologie aussi.
Oui, là on est massivement sur le problème. Si on a d'autres Fukushima ou pire ailleurs et pas loin de chez nous, on se dira que c'était pas un progrès. Et comme vient de dire Pascal, il y a encore plus urgent que de sortir. On se précipite pour savoir comment on va faire pour sortir du nucléaire. Mais au moins, pour les philosophes, il y a une question plus importante que ça, c'est comprendre comment on y rentrait. Comment on y rentrait dans le nucléaire? Tant qu'on n'aura pas compris comment on y rentrait et qu'on n'aura pas changé ce qui nous y a amené, eh ben ça recommencera ailleurs, pareil ou pire. Donc là, je crois que les questions qu'on appelle de technocratie ou de technodémocratie, le fait de se réapproprier, y compris politiquement, plusieurs de vos dernières questions étaient sur ce terrain-là, qui est très important. La technodémocratie, on en a besoin. C'est ça, la réappropriation. Et dans la question, comment est-ce qu'on peut se réapproprier le nucléaire? Peut-être si on répond, on ne peut pas. C'est une énergie trop technocratique dans sa nature même, qui suppose tout un système autour. Le Simondon a très bien expliqué ça, Pascal peut vous en parler très longtemps. Le centrale nucléaire n'est pas isolé, un objet technique appartient à un système technique. Et tout ce qui est autour d'une centrale, y compris le cycle de vie des combustibles, c'est peut-être quelque chose que nous ne pouvons pas assumer, qui n'est pas réappropriable, qui n'est pas acceptable par une société humaine autre que technocratique et irresponsable. Et donc, là, il me semble, on voit la dimension. Qu'est-ce que ça veut dire réapproprier? Ça veut dire que ce qui ne serait pas réappropriable, ce type de système ultra-centralisé, qui est un système de domination, je connais le cas de la France, puisque je suis français, où les militaires avaient besoin de plutonium et c'est tout, donc jamais eu de débat. Ce système, juste, il ne fallait pas y rentrer. Et il ne faut pas rentrer dans d'autres systèmes comme ça, ni pour l'énergie, ni pour l'information, pour réorganiser l'Internet par exemple, ni pour la sécurité, ni pour la biologie. Dans aucun. Il faut que nous déconstruisions comment nous avons laissé se construire ces systèmes technocratiques qui nous dépossèdent des potentiels du progrès, et dont le nucléaire est un très bon exemple, pour ne plus faire ça, c'est déjà urgent, et trouver comment faire autrement.
Vous ne pensez pas qu'on peut dire la même chose, pas seulement pour le nucléaire, mais pour beaucoup de disciplines dans lesquelles on met du savoir-faire très très avancé aujourd'hui, les armes, la médecine, toutes sortes de choses qui sont vraiment très spécialisées et donc par conséquence qui n'est pas du tout possible à approprier pour tout le monde, quoi. Donc, Comment on va faire la différence? Parce que, voilà, je sais pas.
Tout à fait. La médecine, c'est vraiment un très très bon exemple. On a développé une médecine de pointe ultra technologique qui est une pointe d'aiguille par rapport à ceux qui posent problème aux gens. Dans le monde, il y a un problème sanitaire clair, c'est l'accès à l'eau potable et l'accès à des systèmes d'évacuation des eaux usées, on va dire pudiquement. Système d'hygiène de base. Ça, c'est... Ça ne coûterait pas très cher, on saurait le faire, ça sauverait énormément de vies. Et ensuite, une médecine réappropriée, Ivan Illich en parlait, c'est une des sources que nous utilisons, philosophes de la technologie. Ivan Illich a expliqué que la médecine n'est pas ou pas seulement un savoir d'expert qu'on doit déléguer, mais quelque chose de l'hygiène de vie. Et aujourd'hui, on revient vers ça. C'est pour ça qu'on peut... Pour le nucléaire, on a des raisons d'être pessimiste. Mais pour la médecine, on peut être un peu moins pessimiste. En disant, on sait le faire, on fait attention à l'hygiène de vie. Et regardez, est-ce qu'on a besoin de prodiges technologiques pour soigner des maladies qu'on est capable d'éviter, de ne pas avoir, en contrôlant son hygiène de vie, en mangeant moins, moins grand, en faisant du sport, en ne fumant pas de tabac, etc. etc. L'idée, c'est que là, il y a une possibilité de réappropriation. Et ce que j'aime bien, moi qui suis assez non-violent, c'est qu'en faisant ça, on n'a pas besoin d'attaquer les hôpitaux ni les centres de recherche. On n'a pas besoin de détruire et de combattre. Juste, on se retire. C'est comme du Gandhi. Juste, on se retire et on ne fait pas fonctionner ça. Le jour où il n'y aura plus besoin de centrales nucléaires parce que les gens produiront de l'électricité, en consommeront beaucoup moins, seront prêts à payer un petit peu plus cher pour qu'elles ne soient pas nucléaires, eh ben, les centrales nucléaires se trouveront... c'est une utopie, je suis d'accord avec vous, mais... Dans la médecine, on est capable de le faire. On est capable, c'est des mouvements qui sont en cours de réappropriation, et c'est une logique vraiment globale, qui est un programme, probablement pas un programme politique, peut-être un programme de civilisation, on pourrait dire.
Oui, mais toute la... Enfin, moi, je suis extrêmement admiratif par rapport à la réflexion de Michel, parce que c'est vrai que c'est assez rare dans le champ de la philosophie, de la technique, etc., de... remettre l'individu au centre de cette manière-là et de lui donner, tenter de lui donner un pouvoir qui est celui de la réappropriation. Je pense que par rapport à tous les philosophes de la technique précédents, c'est un pas supplémentaire vers quelque chose qui est organisé autour d'une opération de réappropriation qui directement fait penser les choses chaque fois assez différemment que selon des schèmes objectifs de production, par exemple.
Je vois qu'il y a encore une personne qui a un micro. On va prendre la dernière question et puis penser à conclure l'heure nous l'indiquant. Voilà.
J'écoute votre avis, mais je ne suis pas d'accord avec... votre avis sur le modèle de la médecine moderne, spécifiquement. Pour moi, c'est au contraire de la réalité. Il parle de progrès, il parle de l'innovation, mais la réalité, c'est que le soi-disant médecine moderne est basé sur la synthèse. De l'idée qu'il faut synthétiser une molécule, que l'univers est une machine avec les pièces de rechange. Et ça marche parfois pour les genoux ou pour les cœurs transplantés, mais à cause de ce modèle qui comprend la synthèse, mais aussi qui comprend le brevet et puis les marges de 80 à 90% que le public est pollué par ce modèle. Et par exemple, dans les journaux, on peut lire que ça coûte 800 millions d'euros de développer un médecin, mais l'alternative, et je suis d'accord avec votre avis au début, que pour s'adapter, il faut faire quelque chose soi-même, qu'au lieu d'essayer de donner les leçons aux autres, qu'il faut simplement se rendre compte de la réalité et changer, par exemple, les habitudes de manger, ou etc. Mais au-delà, vous vous trompez au sujet de la médecine moderne parce que, par exemple, on est arrivé à un point où les hôpitaux sont les places les plus dangereuses du monde. Après, si vous vous rappelez, vous n'étiez pas né à cette époque-là, et moi non plus, mais il y a 60 ans, ils nous ont dit que les antibiotiques étaient les merveilles de l'époque, que ça va éliminer toutes les infections.
Je vais vous demander d'être un tout petit peu concis.
Oui, mais c'est au sujet aussi du débat de qu'est-ce que ça veut dire. Le progrès, la technique, et qu'est-ce que c'est la relation entre la nature et l'homme, parce qu'on est arrivé pas seulement à un stage où les hôpitaux sont les plus dangereuses places du monde à cause de ce modèle et la mise en place avec les soi-disant antibiotiques, mais on a toute une autre série.
Laisse-moi
parler un peu. C'est pertinent à ce que vous avez dit, et surtout au sujet de la technique et de la relation entre l'homme et la nature. Parce que dans la science, il y a un débat qui est aussi profond que la gauche et la droite de la politique, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la nature? C'est l'univers, c'est une machine, ou est-ce que c'est plus large que nous et il faut simplement s'adapter à la nature. Alors, je répète, je ne suis pas d'accord avec votre vue de la médecine moderne parce que leur modèle est si corrompu et peu importe le pays. Peu importe la langue que tu parles, c'est une arnaque mondiale. Il y a deux ans, ils nous ont vendu les centaines de millions de soi-disant vaccins contre la grippe, et c'était tout ce mensonge.
Monsieur, on ne va pas être obligé de baisser le micro par la force. Donc, voilà. Et par ailleurs, je pense que Michel Pouech n'était pas dans une ligne fortement différente en citant Illich,
voilà,
notamment juste avant.
Je crois qu'on n'a pas de raison de s'énerver et que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites à une différence près, qui est justement l'agressivité. C'est-à-dire que cette médecine faite par des labos pharmaceutiques dont apparemment la moralité est très basse, bon, très bien, on en a aussi besoin. La moitié d'entre nous aurait la tuberculose. Quand on étudie l'histoire du 19e siècle, on voit les ravages de la tuberculose. C'est pire que le sida parce que la tuberculose, on l'attrape vraiment en respirant juste à côté de quelqu'un. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, il y a des chiffres sur la longévité qui ne sont quand même pas contestables. Je crois que le combat n'est pas de diaboliser et d'agresser. Le combat est de dire ce que la médecine est capable de faire, qu'elle le fasse, mais qu'on ne croit pas qu'elle est magique et qu'on ait aussi d'autres approches. Mais quand on a une maladie qui se soigne avec un antibiotique, c'est mieux de prendre un antibiotique que d'avoir des séquelles qui étaient souvent très, très graves. Bon. Ensuite, mais l'idée sur laquelle je veux venir sans discuter sur la médecine, c'est le problème du pluralisme des modèles. D'accepter qu'il y ait, oui, des laboratoires qui cherchent à gagner de l'argent et qui nous proposent certaines choses, mais de ne pas en faire une idéologie. Et de ne pas faire non plus une idéologie du refus de tout système avec une théorie du complot ou des choses comme ça. Il me semble qu'on a beaucoup à apprendre sur la désacralisation des conflits et la tolérance de plusieurs types de modèles et de plusieurs types de progrès même. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur la capacité à tolérer. Ok, madame, il y a des pays dans lesquels il n'y a aucun médicament produit dans ces laboratoires. Je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup envie d'aller y vivre, ni d'y attraper les maladies que tout le monde attrape, les parasitoses, les choses comme ça dans ces pays-là. Mais ils seraient très heureux de recueillir des Occidentaux. Donc si vraiment on ne peut pas tolérer de vivre dans un monde où il y a des laboratoires pharmaceutiques, il existe des solutions.
Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent ouvertes en termes de questions et de possibilités de débat ce soir. On ne les épuisera pas tous dans cette salle maintenant. Est-ce que Michel veut encore dire un mot de conclusion, Pascal? Voilà, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Merci à toutes et à tous. Merci à Michel Pouech, merci à Pascal Chabot.
Merci à vous.
Oui, et voilà. Et donc, bonne suite de Festival des Libertés, etc. Et je vous rappelle aussi que les différents débats auxquels vous avez assisté ou non seront mis en ligne sous une forme audio d'ici la fin de la semaine.